Salut Valentin, c'est Vidéomakerui.
Salut.
Aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir. Donc, salut à toi, bienvenue.
Salut. Merci pour l'accueil.
Ouais, je t'en prie. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, je vais le laisser se présenter. Donc, Valentin, il habite sur Paris. On t'écoute, Valentin.
Salut, du coup, oui, donc j'habite sur Paris. Je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Coup d'État et qui en fait propose des formations en ligne ou en présentiel pour apprendre à entreprendre et donc pour se lancer avec un peu toutes les codes des startups et essayer d'avoir cet état d'esprit très rapide, cassage de barrières et essayer d'aller au plus vite et à l'essentiel pour éviter de travailler pour rien finalement. Essayer de donner en fait finalement les bons réflexes, le bon état d'esprit aux gens pour qu'ils puissent monter leur boîte et monter des boîtes dont ils sont fiers. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien depuis maintenant 6 mois. Et
Très
avant ça, j'ai
bien.
monté plusieurs boîtes. J'ai monté plusieurs boîtes et ma spécialité, en fait, c'est de créer des produits, c'est la création de produits et repérer, en fait, où sont les besoins des gens et comment créer des produits qui peuvent venir répondre à ces besoins-là.
Ok, super. Bah justement, alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours?
Alors, mon parcours, bah, en gros, si on remonte il y a quelques années, donc j'ai commencé à coder, j'étais assez jeune, j'avais une dizaine d'années. Ensuite, j'ai blogué pendant un temps, donc je bloguais sur des sujets un peu geek et high-tech, qui étaient les choses qui me passionnaient à l'époque, quoi. J'ai blogué ça pendant 3 ans, et puis ensuite, il s'est passé 2 ans où j'ai lancé un blog qui est devenu un média qui parlait vraiment quasiment que de réalité augmentée. Et c'est un sujet que j'ai adoré, qui est venu s'ajouter à plein de sujets connexes. J'adore tout ce qui est futurologie, j'adore la réalité virtuelle, j'adore les intelligences artificielles, tout ce qui est énergie renouvelable, la conquête spatiale. Enfin voilà, tous ces thèmes-là m'intéressent énormément. Et j'étais en train de faire mes études. À ce moment-là, quand je bloguais sur la réalité augmentée et tous ces sujets un peu connexes, je donnais pas mal de conférences et tout. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'arrêter mes études. En tout cas, j'ai pris l'opportunité d'arrêter mes études pour rejoindre The Family, qui du coup est une famille d'entrepreneurs, en gros. Donc c'est comme un investisseur privé, sauf qu'au lieu d'investir de l'argent, ils investissent les 3 choses que fournissent une famille, de l'éducation, de la protection et de la finance. Et en fait, donc ils prennent des startups, ils prennent 5% dans une startup et ils les accompagnent à aller toujours de plus en plus vite et à aller de plus en plus loin pour aller prendre le monopole sur des marchés qui sont gigantesques, quoi, finalement. Et donc moi, j'adorais leur vision du monde, j'adorais ce qu'ils faisaient. J'étais vraiment fan des conférences qu'ils proposaient, de tout le contenu qui était mis en ligne gratuitement et qui résonnait énormément avec moi parce que j'avais enfin trouvé des gens qui étaient aussi ambitieux que moi et voire plus. Et c'était beaucoup dire. À l'époque, quoi, et donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille travailler chez eux. Et donc, j'ai envoyé un email à Oussama Ammar, qui est le fondateur, un des 3 fondateurs de The Family, en lui disant, salut, écoute, moi j'adore la mission d'aider des gens à entreprendre et à aller plus vite toujours. D'ailleurs, je faisais déjà un petit peu ça en envoyant une newsletter avec tout ce que je pouvais faire en blogging et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, je pense que j'aurai plus d'impact sur cette mission en bossant chez The Family qu'en bossant dans ma chambre. Et donc, visiblement, il a trouvé ça cool parce que quand on s'est rencontrés, il m'a dit bienvenue chez The Family et j'ai commencé à bosser là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à bosser chez The Family, c'est que j'ai été tout de suite baigné dans un milieu où il y avait beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des choses exceptionnelles ou que je trouvais dingues. Et en fait, j'ai rencontré un des entrepreneurs, j'ai entendu parler de lui, il était belge et il créait une boîte qui s'appelait Menu Next Door, ça faisait 2 semaines. Et en fait, je l'ai rejoint pour bosser avec lui sur Menu Next Door. Et je suis resté 2 ans. Donc, Menu Next Door, c'était une boîte qui mettait en relation des particuliers qui cuisinaient chez eux et d'autres gens qui venaient prendre les plats à emporter. Et donc, moi, j'ai rejoint cette boîte-là. Je suis devenu associé. On a fait grossir la boîte très, très, très vite. On a levé 5 millions d'euros. On a ouvert 3 pays, engagé 25 personnes. Et puis, on a dû se séparer de 90% de la boîte, fermer 2 pays et revenir qu'à un seul. Et parce qu'on a fait plein de conneries et plein de choses qui ont fait qu'on a amené la boîte à couler. Et voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on ferait probablement pareil parce que c'était là vraiment la recherche de la croissance qui était importante et on n'a pas réussi à soutenir cette croissance-là. Et donc, et bah, tant pis, quoi, ça faisait partie du jeu. Et donc, après ça, il s'est passé 1 an et demi où j'ai un peu fait du freelance en produit, un peu lancé des projets sur le côté, etc. Et il y a 6 mois, je suis retourné voir Oussama en lui disant, bon, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Est-ce qu'on pourrait imaginer un truc pour moi, quoi? Et il m'a dit, écoute, on voudrait lancer Coup d'État, qui était leur formation en entrepreneuriat déjà, qui date d'il y a 5 ans. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, je suis trop chaud. C'est une formation que j'ai faite il y a 5 ans, qui a vraiment bouleversé ma vie complètement et qui m'a apporté énormément de choses. Donc, je suis chaud de le relancer, quoi. Et donc, ça fait 6 mois. En fait, on a décidé de relancer Coup d'État en faisant une boîte à part entière. Donc, c'est une société complètement différente de The Family, qui est détenue en majorité par The Family et le reste est détenu par moi. Et mon objectif, voilà, c'est de former un maximum de gens à créer des boîtes dont ils ou elles sont fiers et à pousser les gens à prendre leur vie un peu en main, quoi, finalement. Donc, ça, voilà, c'est pour le parcours en accéléré.
OK. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce milieu de l'entrepreneuriat? Puisque finalement, tu avais commencé tes études et finalement, tu t'es embarqué dans ce milieu-là.
Bah, quand j'ai commencé mes études, j'avais vraiment en tête déjà de vouloir entreprendre. Parce que c'est un truc que je veux faire depuis que je suis assez jeune, quoi, finalement. The Social Network, le film, c'est 2010, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, OK, moi, plus tard, je veux être Mark Zuckerberg, quoi. Et ça a duré longtemps cette phase où je voulais être quelqu'un d'autre que j'admirais énormément et qui était une représentation fictive d'un mec qui a rien à voir dans la vraie vie a priori. Mais ça a duré un petit moment. Il y avait ce truc un peu mettre les entrepreneurs sur un piédestal, les entrepreneurs sont les nouvelles rockstars, machin. Et j'avais cette ambition de faire quelque chose de grand et quelque chose de phare. Et donc en fait, ce milieu-là, finalement, il a toujours été un peu. Ça a toujours été un truc que je cherchais, quoi. Et quand j'ai commencé mes études, c'était des études de management dans le numérique qui avaient une promesse de formation à l'entrepreneuriat qui était assez forte. Et je me suis rendu compte, en fait, que bah, comme toutes les écoles, cette promesse-là de former à entreprendre, elle ne peut pas être tenue parce que c'est complètement non académique d'entreprendre. Parce que même s'il y a des règles, des petites astuces et des techniques, etc., il n'y a aucun moyen d'apprendre à entreprendre sans faire. Et le problème de l'école, c'est que ce ne sont que des exercices théoriques. Et finalement, ça fonctionnait pas, quoi. Ça matchait pas. Et je me rendais bien compte que j'avançais pas. Et donc, je suis parti de l'école et je suis allé dans le milieu où ça me correspondait beaucoup plus, qui était ce groupe d'entrepreneurs qui était The Family, où je voyais que des gens qui faisaient que des trucs que je rêvais de faire. Et je me suis dit, il faut absolument que je me mette dans ce milieu-là, que je me mette dans ce bain-là, parce que je vais apprendre par osmose. Et en fait, si je m'entoure de gens qui sont en train de le faire, je vais devenir quelqu'un qui sera en train de le faire. Et ça n'a pas loupé, en fait. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a même pas un choix, ça s'est porté à moi assez naturellement, en fait. Et parce que j'y côtoie des gens que j'aime bien. Je crois que c'est un peu la règle pour côtoyer, pour faire partie d'un milieu, entre guillemets, c'est qu'il faut avoir des gens qu'on aime bien dedans, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des valeurs communes. Et je trouve ça, en fait, dans le milieu de l'entrepreneuriat, pas avec tout le monde, évidemment, mais une bonne partie des gens, et c'est ça qui me plaît beaucoup, quoi.
D'accord. Et de quoi tu t'occupes en fait concrètement dans Coup d'État?
Dans Coup d'État, bah, pendant longtemps, enfin pendant un moment, j'étais tout seul. Et puis il y a Dimitri qui s'occupe de faire toute la vidéo, qui m'a rejoint ensuite. Et puis une troisième personne qui est développeur back-end à temps partiel. Puis là, bientôt, on va être 6. Donc voilà, ça commence à structurer un petit peu en termes de boîte, mais pendant un moment j'ai fait de tout, quoi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu commences une boîte, il y a plusieurs choses sur lesquelles tu dois travailler. Nous, en l'occurrence, c'était la production de contenu, la création du site internet, tout ce qui est gestion de la communauté, et tout ce qui est marketing, en fait, sur Instagram, Facebook, etc. Donc publier énormément de vidéos. Et pendant un long moment, on a fait ça à 3 personnes, dont une à temps partiel, quoi. Et en fait, donc ça implique que chaque semaine, il y a des nouvelles tâches et qu'il faut les abattre et régler les problèmes. Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce job de CEO, quoi. C'est que je touche un peu à tout. Ça me permet d'exploiter je pense que ma force, c'est d'être un peu moyen partout et très bon nulle part, tu vois. Je suis un peu un généraliste, quoi. Et donc, ça me permet de toucher à tout et de comprendre un peu les différents pôles de la boîte dans lesquels c'est important de faire des progrès. Et c'est à moi de driver ce
progrès. Tu me dis que tu as été capable de faire un peu de tout. Qu'est-ce qui fait justement cette force chez toi? Je veux dire, il y a des entrepreneurs qui sont peut-être plus âgés que toi, qui pourraient se dire mais d'où est-ce qu'il sort cette force-là, quoi.
Bah, en fait, la raison pour laquelle j'ai touché à beaucoup de choses, après je dis un peu de moyen dans tout, c'est pas vrai dans tout, tu vois, mais en tout cas les compétences qui sont utiles dans le coup d'État actuellement, c'est le cas, c'est-à-dire la création d'un produit, savoir coder un minimum, savoir produire de la vidéo, savoir utiliser les réseaux sociaux correctement, savoir faire des Facebook Ads, enfin tout ça, c'est des choses que j'ai pu apprendre en fait par le passé dans des précédents projets, quoi, ou même sur Menu Next Door qui était la boîte dans laquelle j'ai bossé, qui était vraiment un succès pour le coup, et dans laquelle on a appris énormément de choses sur très rapidement, parce que c'est ça la force d'une startup, c'est que tu condenses en fait 10 ans d'activité dans 2 ans réels, tu vois, tu as l'impression de vivre énormément de choses et donc d'apprendre beaucoup beaucoup parce que tu n'as pas le choix en fait, tu as ta croissance qui tire et tu es là genre ah, il faut absolument qu'on suive. Et donc tout ça j'ai pu l'apprendre en fait dans des précédents projets. La raison pour laquelle j'aime bien toucher à tout, je crois que c'est parce que je m'ennuie vite, quoi. Et que y a rien que j'ai découvert qui me passionne suffisamment pour y passer 100% de mon temps à vouloir devenir un expert de ce sujet. Et en fait, je trouve rien. Genre, la plupart du temps, c'est le même truc, que ce soit faire de la musique électronique, apprendre à cuisiner. Bon, cuisiner, c'est un peu plus quand même, mais apprendre à cuisiner ou faire du digital marketing. En fait, à chaque fois, je me dis, tiens, là, je découvre le sujet, c'est trop intéressant. J'ai une courbe d'apprentissage qui est très rapide au départ, forcément, parce que je me bute, en fait. Genre, je vais regarder 10 000 vidéos, je vais lire 10 000 articles sur un sujet. Du coup, je vais apprendre, 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 faire, 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 jusqu'à ce que je progresse. Et il y a un moment où j'atteins un niveau que je trouve suffisant et qui est pas, qui finalement, je me dis, bon, là, c'est cool que j'ai atteint ce niveau-là. Je découvre un truc, je le pratique pendant 2 mois, et puis une fois que je suis un peu satisfait de mon niveau, j'ai jamais envie d'aller beaucoup plus loin pour devenir un expert. Et ça a 2 effets. Le premier, c'est que la plupart des gens vont me dire, ah, mais t'as encore abandonné ce truc que t'as commencé alors que ça avait l'air de devenir toute ta vie. Donc finalement, il y a une espèce d'incompréhension de la part de tout le monde parce que t'as l'impression d'être juste un lâcheur, quoi, et ce que je peux comprendre de l'extérieur. Et en même temps, ça a l'autre effet qui est que, bah, à chaque fois que tu abandonnes quelque chose et que tu passes à quelque chose de nouveau, eh ben, tu as accumulé des petites compétences qui te permettent de, quand t'en as besoin à un moment voulu, tu as déjà touché au truc, quoi. Et c'est ça que je trouve hyper important de faire. En tout cas, pour moi, j'ai besoin de cette curiosité-là tout le temps. C'est que certes, je suis pas un expert de comment on fait des Facebook Ads parfaitement et de quelles sont les bonnes techniques, machin. Mais si demain, on veut commencer à faire des Facebook Ads sur coup d'État pour promouvoir notre contenu, etc., je peux. Je peux parce que j'y ai déjà touché et je n'aurai pas à faire cette première étape de rien comprendre du tout à l'outil. Et finalement, je comprends la logique. Après, ça me permet de mettre en place quelque chose de suffisamment solide pour recruter quelqu'un à qui je vais le déléguer et qui le fera mieux que moi par la suite, quoi. Je pense que c'est ça qui est important.
Toute la transversalité de certaines compétences. Alors, du coup, ça fait 6 mois que tu occupes ce poste,
Ouais.
ce poste de CEO. Qu'est-ce qui te plaît en tant que CEO à coup d'État dans ton activité quotidienne?
Je crois que la vraie raison pour laquelle j'aime ce que je fais, c'est les gens, c'est l'équipe, fondamentalement. Genre, c'est un truc que j'ai réalisé chez Menu Next Door. En fait, genre, avant, j'étais pas un team player de fou, tu vois. Genre, j'étais plutôt individuel. À l'école, j'étais pas mauvais. Donc, en fait, j'avais toujours un peu l'impression de devoir tirer les autres vers le haut. Et puis, il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup de prétention et tout ça, tu vois. Et puis en fait, avec Menu Next Door, j'ai pris des grandes claques d'humilité dans la tronche parce que je suis retrouvé dans des équipes où les gens que je manageais étaient 1 000 fois meilleurs que moi et jamais j'aurais pu faire leur taf à leur place. Et je pouvais juste les guider et essayer de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je me suis rendu compte en fait que ce truc-là, ça m'excitait vraiment, quoi. Genre ce côté-là de prendre des gens qui ont un potentiel, les faire augmenter ce potentiel pour devenir des stars et leur donner des challenges constamment pour qu'ils puissent se dépasser et devenir de mieux en mieux jusqu'à avoir une équipe une équipe incroyable, tu vois. Genre à la base l'équipe de Menu Next Door, tout le monde n'aurait pas misé dessus, tu vois. Et en fait, finalement, c'est les épreuves et le fait de résister aux épreuves ensemble qui fait qu'on arrive à un point où c'est assez incroyable. Et c'est ce sentiment-là que je retrouve chez Coup d'État maintenant. C'est que là, pour l'instant, on est trois. ces trois personnes qui sont complètement déterminées, qui savent communiquer correctement, qui ont envie d'avoir des challenges au quotidien pour s'améliorer et pour prendre du niveau dans ce qu'elles font. C'est vraiment personne ne va jamais dire que un problème est le problème de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a vraiment un esprit d'équipe, une cohésion très importante. Et je pense fondamentalement qu'arriver à rassembler des gens qui ont un but commun et qui vont pouvoir construire quelque chose qui est beaucoup plus grand que la somme d'eux-mêmes réunis, c'est le plus important, tu vois, c'est ça qui m'excite vraiment fondamentalement, et c'est ce job-là que je fais en fait au quotidien en tant que CEO, c'est trouver les gens qui vont pouvoir servir la cause du mieux possible et les amener à la servir toujours, toujours mieux, et en commençant par moi, tu vois. Je suis le premier serviteur, entre guillemets, de cette cause qui est, on veut aider les gens à bâtir des boîtes incroyables, et je me lève le matin parce que j'ai envie de bâtir des boîtes incroyables et je vais trouver des gens qui ont envie de se lever le matin avec moi pour aider d'autres gens à bâtir des boîtes incroyables, et quand on aura aidé un maximum de gens, on aura réussi, et c'est pas quantifiable, donc on n'aura jamais fini. Donc, je m'occupe surtout de la communauté, et donc j'organise en fait ce qu'on appelle des office hours, où c'est des gens qui ont des projets de boîte déjà, qui sont en train d'avancer sur leur boîte, et qu'en fait je conseille qu'ils aillent plus vite et qu'ils fassent moins de travail inutile, parce qu'en fait c'est le travers de tous les entrepreneurs, c'est que souvent on a tendance à faire des choses faciles qui rapportent beaucoup de satisfaction instantanée, mais qui en fait font pas avancer la boîte en soi, quoi. Et donc j'essaie de donner un maximum de conseils à des gens en rendez-vous comme ça, en face à face, et où on peut discuter et construire ça. Et puis il y a beaucoup beaucoup de ça. Et sinon, il y a des moments où je vais coder pour améliorer le site. Il y a des moments où je vais aider Dimitri à faire de la vidéo. Finalement, il y a toujours des petits trucs en plus qui viennent se rajouter dans ma journée où je suis obligé d'agir sur une tâche spécifique parce que il y a pas assez de force de frappe sur telle ou telle partie de la boîte. Donc je jongle un peu tout le temps entre ce qu'il y a à faire, quoi.
Ok. Alors maintenant, on va partir sur la partie réseaux sociaux dans mes questions. Alors, à quel moment et plutôt quel jour, plus que d'autres, tu consultes les réseaux sociaux ?
Le matin, je pense que c'est le premier truc que je fais en me réveillant. Je regarde Instagram, quoi. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Instagram. D'accord. C'est celui que je consulte le plus, je crois, parce qu'il y a vraiment un… Bah, finalement, je crois que c'est là où toutes les marques un peu stylées et tous les influenceurs un peu stylés sont en ce moment, quoi. Facebook, la population est en train de vieillir à vue d'œil, c'est incroyable. Genre, il y a plus que des gens qui partagent des photos de mignons avec des citations, tu vois. Et c'est pas que ça, évidemment, mais il y a quand même de plus en plus de ce public-là où ça partage de la fake news parce qu'en fait, personne n'est conscient que c'est de la fake news et tout le monde est là genre « Ah ouais, c'est super, je vais partager ». Finalement, c'est comme s'il y avait un peu… C'est un peu la génération de mes parents, tu vois, genre qui débarque sur Facebook. Ça fait un moment maintenant qu'ils débarquent sur Facebook, mais en fait, comme tous les gens de ma génération sont en train d'être de moins en moins actifs sur Facebook, même s'ils y passent et qu'ils consultent le truc, les gens qui publient sur Facebook, c'est de plus en plus soit des boîtes qui payent pour faire de la promo, soit des gens qui sont un peu plus vieux, quoi, et qui n'ont pas les codes en fait du réseau social comme nous on peut les avoir. Tu vois, j'ai pas envie non plus de faire une opposition jeune vieux, mais en tout cas il y a un truc comme ça qu'on observe où t'as énormément de contenu qui est partagé et que la plupart des gens de ma génération vont trouver inutile et sans valeur, alors que ça va faire marrer mes parents qui ont 55 ans, tu vois.
Et pourquoi je te laisse continuer, hein. Pourquoi justement ils pensent qu'ils captent le plus notre attention ?
Je pense qu'il y a juste une notion de retard, quoi. Et genre en fait, Facebook à la base, c'était un truc hyper hype, hyper à la mode, quoi. Tout le monde s'est chauffé et s'est mis sur Facebook, à commencer par les jeunes. Et puis quand ça grandit encore, il y avait plus de jeunes à aller chercher, donc ils sont allés chercher les gens qui étaient un peu moins jeunes, quoi. Et puis en fait, progressivement, avec l'arrivée d'Instagram et le fait que justement il n'y ait pas ou de Snapchat, tu vois, genre c'est un mix de tout, quoi. C'est un mix de tous les réseaux sociaux qui sont sortis un peu après Facebook, qui ont fait que les jeunes se sont rendu compte qu'avoir un réseau social où il n'y avait pas leurs parents, c'était quand même vachement mieux. Et donc tout le monde a déserté progressivement ce truc-là. Surtout que il y a toute une culture qui est très différente d'un réseau à l'autre, si tu veux. Il y a vraiment il y a cette culture du beau qu'on va trouver sur Instagram, où les gens vont vouloir faire la belle photo, capturer le beau moment et finalement regarder le profil d'Instagram. Le profil Instagram d'un pote, c'est un peu comme regarder un joli carnet photo de lui, alors que regarder son Facebook, je sais pas, c'est beaucoup moins qualitatif la plupart du temps. Et c'est lié à la plateforme et juste aux usages qui ont été imposés sur la plateforme à la base, parce que c'est ce truc des filtres qu'a construit Instagram, donc que des gens qui voulaient avoir une certaine sensibilité au visuel. Et donc, ouais, c'est juste des usages qui sont très différents et qui me correspondent plus. Donc, je passe plus de temps sur Insta. D'accord. À quel moment un peu tout le temps, quoi. Dès que j'ai 5 minutes, j'ouvre mon Insta, je regarde les dernières stories et je regarde si j'ai raté des posts ou pas. Et voilà, il y a toujours un moment. Mais c'est vraiment dans les moments de divertissement, quoi. Ça va être, si j'ai une pause de 5 minutes, je regarde Instagram. J'essaie d'éviter de checker toutes les 5 secondes pendant que je suis en train de travailler parce que ça me divertit trop, quoi.
D'accord. Et après, Instagram permet aussi les vidéos. Est-ce que tu dirais que tu serais sensible justement aux vidéos sur ce réseau social?
Bah, de toute façon, je suis sensible aux vidéos sur tous les réseaux sociaux, enfin que ce soit sur Facebook ou Instagram, parce que je traîne quand même pas mal sur Facebook. Hein. C'est juste que moins que sur Instagram. La vidéo est incroyable. Genre, c'est un vecteur de communication qui est fabuleux. Parce que moi, je pense que c'est vraiment la botte secrète que tout le monde devrait utiliser et elle est de moins en moins secrète. Il y a quand même pas trop de gens qui l'utilisent parce que tout le monde se fait une montagne de comment créer du contenu vidéo, alors que finalement, faire du montage, c'est pas si compliqué que ça. Faire un truc qualitatif, c'est à la portée de tout le monde, quoi, je crois. Et puis, il y a plein de petits trucs, tu vois, genre le fait que Facebook ait instauré la vidéo en autoplay sans son, c'est incroyable. C'est incroyable. 90% des vidéos sur Facebook sont jouées sans son. Et je vois encore des vidéos qui n'ont pas de sous-titres. Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et genre, ouais, sur ces 90% de vidéos jouées sans son, j'en fais totalement partie parce que je trouve que c'est le meilleur canal de communication. Les photos, c'est chouette parce que c'est joli, etc. Les vidéos avec le son, c'est bien dans une certaine situation où tu es posé et tu as vraiment l'occasion de pouvoir mettre du son et de profiter, etc. Les vidéos sans son, c'est vraiment de la consommation de contenu rapide qui, moi, me convient très, très bien, quoi. Et ce truc-là, et je trouve pas assez exploité par la plupart des gens. Et quand c'est bien exploité, c'est dingue. Enfin, ce que font des boîtes comme Brut, des boîtes comme Combini et tout ça… En utilisant ce format vidéo pour faire quelque chose de dingue, je trouve ça fabuleux.
Alors après, est-ce que tu peux me dire, quand tu es sur le réseau social d'une entreprise justement ou bien sur son site internet, qu'est-ce que tu dois contacter ou bien voilà, que tu es tombé dessus par hasard, qu'est-ce qui va t'intéresser le plus à ce moment-là? Est-ce que ça va être de lire l'article de blog ou bien est-ce qu'il a une vidéo sur son site? Ou bien est-ce que tu vas regarder vraiment s'il y a des documents à télécharger? Voilà, qu'est-ce que tu cherches sur toi? Qu'est-ce que tu attends d'une entreprise?
Bah, déjà, genre, ça dépend forcément. Hein, ça dépend forcément du contexte dans lequel je tombe sur cette boîte-là, etc. Si c'est une boîte qui fait de la promo d'un produit que je trouve bien, je vais peut-être chercher un peu d'infos. C'est toujours pareil, genre ça dépend vraiment beaucoup de la façon dont tu tombes sur le truc, quoi. Enfin sur le profil social ou sur le site d'une boîte. Après, s'il y a bien un truc auquel je suis sensible, c'est les choses qui vont vite, quoi. Genre j'ai la plupart du temps, si je tombe sur une boîte et que je suis un peu intéressé mais pas trop, il va falloir qu'il me convainque très très vite, tu vois. Et pour me convaincre très très vite, il faut que ce soit clair, qui a un contenu rapide, qui puisse m'expliquer de manière tangible quoi ce qu'ils font. Et en fait, c'est ça le plus gros problème des boîtes souvent, c'est que tu comprends pas exactement ce qu'ils font. Et du coup, c'est un peu un problème quand tu fouilles et que tu cherches. S'il y a un fichier à télécharger, je vais pas télécharger, tu vois. S'il y a une vidéo à regarder et qu'elle dure 10 minutes, je vais pas regarder. Par contre, une vidéo de 30 secondes, une minute, je vais me dire, ah, bah, allez, vas-y. Ça va vite, au pire, parce qu'en fait, c'est ça le risque. Le risque, entre guillemets, c'est qu'en fait, tu tombes sur une vidéo de 5 minutes et tu te rends compte que c'est tout naze et que tu vas y perdre du temps à fond et que tu n'as pas envie. 5 minutes, c'est peu, mais finalement, je passe déjà suffisamment de temps sur Facebook pour ne pas avoir à rajouter des moments où ça ne me fait même pas plaisir, tu vois. Et du coup, bah, je vais chercher beaucoup ça. Après, je crois fondamentalement que sur un réseau social ou sur un site, il y a vraiment deux choses qui fonctionnent très très bien. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, mais c'est le apporter de la valeur aux gens, genre un compte social qui apporte de la valeur aux gens. Je sais pas si t'es une boîte qui fait si t'es une agence web et que tu fais du contenu qui t'explique comment faire du SEO, si t'es un wedding planner et que tu fais du contenu sur comment faire les bonnes décorations pour ton mariage, etc. Tout ça, ça apporte de la valeur, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper pertinent et c'est trop cool parce que tu peux juste parcourir le compte sans avoir à aller nulle part ailleurs que sur le compte social et déjà apprendre des choses et lier une espèce de relation intime avec la boîte, quoi, ce qui est hyper important. Il y a ça et il y a tout ce qui est ego trip. Et par ego trip, j'entends les posts, on est 50 000, les posts, on a besoin de votre aide. Enfin, tu vois, tout ce qui va en fait mettre la communauté des gens qui suivent la page sur les réseaux sociaux sur un piédestal. Et qui va donner aux gens qui découvrent la page envie d'aller plus loin parce qu'ils se disent ok, ça c'est un truc sérieux, quoi. Et je pense que c'est vraiment ces deux trucs là que je vais chercher.
D'accord. Alors après, là ça va être une question assez axée pour les pour ceux qui nous écoutent là, les entrepreneurs vraiment locaux. La vidéo pour les réseaux sociaux, donc comme tu l'as dit, ça apparaît, voilà, c'est peu d'entreprises font encore le pas parce que ça apparaît comme le média le moins utilisé des chefs d'entreprise finalement et des directeurs marketing comparé à la publicité qui est télé, qu'ils vont faire, les passages en radio, dans la presse, ou même à La Réunion, il y a beaucoup de panneaux 4x3 parce qu'on est encore beaucoup à avoir sa voiture, à prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser. Il n'y a pas de tram-train, il n'y a pas de TGV. Et du coup, certains entrepreneurs, quand ils nous contactent, bah, c'est parce qu'ils ont vu que leurs concurrents se sont mis à faire des vidéos sur Facebook. Et du coup, à cause de cette raison-là, ils ont envie de faire des vidéos sur Facebook maintenant. Et dès qu'il faut travailler après sur eux, bah, ça paraît compliqué en fait. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Comment ça, quand il faut travailler sur eux ?
C'est-à-dire, ils ont vu un concurrent faire de la vidéo, alors que eux, dans leur zone de confort, ils faisaient plutôt télé, 4x3, radio, presse. Et là, ils se disent, il faut qu'on fasse des vidéos. Maintenant, on n'a pas l'habitude. Donc, c'est très dur pour eux de réfléchir en mode vidéo.
Ouais. Mais en fait, il y a tout un truc qui est intéressant dans ce format vidéo. C'est que un 4x3 ou une pub télé ou une radio qui ne fonctionne pas du tout et qui ramène zéro business, c'est difficile de se rendre compte si c'est le cas ou pas. En fait, c'est très difficile de savoir si une pub comme celle-là a un retour sur investissement. Enfin, c'est ce que tu proposes toi, en fait. Hein. Et l'avantage des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux très, très vite mesurer si la vidéo a plu, si elle a été partagée, si c'est un contenu qui a de la valeur pour les gens. Quand je dis que les contenus doivent avoir de la valeur ou que les contenus doivent être de l'ego trip, c'est parce que ça permet qu'ils se partagent. Parce que si les gens trouvent de la valeur et qu'ils apprennent des choses et qu'ils avancent grâce au contenu que tu proposes, ils vont le partager à d'autres gens et donc d'autres gens vont entendre parler de ta marque, etc. C'est peut-être le cas sur un 4x3. Peut-être que tu as une pub 4x3 qui est très bien faite, quelqu'un va la prendre en photo et l'envoyer à son pote, tu vois. C'est pas impossible, c'est juste que c'est beaucoup plus facilement mesurable. Après, de là à dire ce que les gens devraient faire pour créer leur campagne vidéo sur Facebook et sur les réseaux sociaux de manière générale, j'ai pas cette prétention-là, tu vois. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour raconter l'histoire, raconter les valeurs de la boîte et raconter des choses qui ont de la valeur pour tous les clients qui sont ciblés par cette boîte-là, quoi. Et si tu mets ça en tête et qu'avec ça, tu crées une stratégie de marketing digital qui a du sens, qui est cohérente et qui surtout vise le long terme, tu vois, que c'est pas juste je vais faire une vidéo, ça va buzzer, ça va être la folie, ou tu as vraiment une stratégie éditoriale de contenu, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de fort. Après, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts sur du long terme. Nous, c'est coup d'état, c'est une vidéo par jour sur Instagram qui sort et c'est du taf, tu vois, mais c'est juste qu'il faut faire ce choix-là. Faire ce choix-là de est-ce que j'ai envie que les gens soient tout le temps dans mon contenu sur Facebook et qu'ils apprennent énormément de choses et que ça nous force à faire des choses que les gens kiffent, ou est-ce que je vais juste me faire une pub 4x3 et que ça marche ou que ça marche pas, je ne saurais pas. Mais comme j'ai dépensé de l'argent, je me sens bien dans ma peau, quoi.
Et justement, tu disais par rapport au retour sur investissement qu'on peut mesurer. Et par contre, on peut mesurer, mais pas forcément des ventes, même si l'entrepreneur, il va toujours vouloir mesurer en vente. Mais toi, par exemple, justement, tu parlais qu'il n'y avait pas que des ventes qu'on peut mesurer, justement, les partages. Et le fait de partager, qu'est-ce que ça permet, tu trouves, pour la personne qui voit les contenus vidéo de la marque?
Si tu vois les contenus vidéo d'une marque et que tu trouves ça intéressant, tu ne vas pas forcément te soit partager direct, soit aller devenir client de la marque, soit genre, tu n'as pas forcément une action derrière le visionnage d'une vidéo qui est tangible, tu vois. Par contre, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, tu te dis, bon, maintenant que ces gens-là, ils m'ont donné tant de contenu gratuit et j'ai appris des choses et j'ai avancé et je les aime bien, peut-être que je vais jeter un œil à ce qu'ils font. Et en fait, c'est toujours pareil. Genre, la construction d'une marque, c'est un truc qui est long terme. Et genre, c'est pas possible de construire une marque ou de faire une stratégie de contenu qui fonctionne en deux semaines, quoi. Genre, y a pas de secret, tu vois. Genre, ça se construit. Je pense que c'est ça le gros du truc, quoi. J'ai oublié quelle était ta question vraiment, mais.
C'était ça justement. Est-ce que tu trouves que c'est important quelque part de multiplier les contacts, les points de contact?
Ah ouais, complètement, ouais, complètement.
Après, est-ce que tu aurais enfin voilà, on parlait tout à l'heure qu'il faut un minimum de visibilité sur les réseaux sociaux. Toi, tu parlais de faire une vidéo par jour sur Instagram. Justement, est-ce que tu peux développer un peu plus ton expérience, que ce soit Munexor, que ce soit Coup d'État, qui t'a vraiment impacté?
Ouais, en fait, c'est un truc. Je fais des vidéos avec des potes et des trucs comme ça depuis le lycée, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup aimé ça et je trouve que c'est. Tu sais, j'avais pas mal de potes qui faisaient de la photo ou qui écrivaient des trucs et tout. Et puis, je me disais tout le temps, ouais, mais il y a quand même rien de mieux que la vidéo pour raconter une histoire, quoi. Parce que tu vis le truc, il y a un parti pris visuel que tu peux vraiment. Travailler et sur lequel tu peux vraiment compter pour donner un effet particulier. Enfin, je trouve que la vidéo est vraiment balèze. Et quand on a fait Menu Next Door, la vidéo est devenue très très vite indispensable parce qu'on avait un truc très communautaire. Qui dit communauté dit histoire. Genre en fait, une communauté c'est toujours bâti sur une histoire, mais voire même sur une légende, tu vois. Et le meilleur moyen de raconter cette histoire, c'est de faire de la vidéo. Parce que tu peux raconter vraiment l'histoire telle qu'elle est, tu peux montrer des images concrètes, tu peux montrer des émotions de gens, enfin tu vois, il y a tant de choses que tu peux transmettre dans une vidéo. Et chez Menu Next Door, on transmettait tout ça et ça transpirait sur les réseaux sociaux, quoi. Genre on faisait une soirée coup d'état, les gens une soirée Menu Next Door, les gens voyaient les vidéos d'après, ils étaient là en mode putain, la prochaine soirée Menu Next Door, je veux être là absolument, quoi.
D'accord.
Et pour tous ces trucs-là, c'était hyper important. Et c'était que de la promo, tu vois. Donc ça, c'était pour Menu Next Door. Et pour Coup d'État, c'est la même chose. Pour Coup d'État, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de produire énormément de valeur le plus possible et de l'avoir sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, il y a même une stratégie qui est plus profonde que ça dans Coup d'État. Parce que dans Coup d'État, notre mission, c'est d'aider les gens à bâtir des boîtes dont ils ou elles sont fiers. Ça, c'est clair. Ça fait trois fois que je le dis depuis le début. Et c'est vraiment important pour moi, tu vois. Cette mission-là, je pense qu'elle n'est rendue possible que si tu es au contact d'entrepreneurs constamment. Comme je l'ai fait moi chez The Family, tu vois. Quand je racontais que chez The Family, j'étais arrivé, que j'avais rencontré plein d'entrepreneurs, que j'avais été baigné dans ce milieu-là et que du coup, ça m'avait donné envie de me lancer. Je pense que c'est la même chose qu'on doit faire chez Coup d'État. Et là où les gens passent le plus de temps, c'est les réseaux sociaux. Enfin, pas le plus de temps, mais là où les gens passent beaucoup de temps, c'est les réseaux sociaux. Et je me dis, plutôt que de leur présenter une vidéo de chat, autant leur montrer une vidéo d'un témoignage d'entrepreneur qui va les inspirer, qui va leur donner envie et où ils vont se dire, bon, ok, c'est bon, je ferme mon Instagram, je vais aller retourner bosser parce qu'effectivement, c'est que comme ça qu'on construit quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de matraquer un peu et poster beaucoup, beaucoup de contenu vidéo pour que les gens aient toujours envie de s'arrêter dans le feed et se dire, ah ouais, putain, ça c'est chouette, il y a un vrai truc, je vais pouvoir m'en inspirer, je vais pouvoir avancer et bâtir ma propre histoire, quoi. Donc ça, c'est donc, vraiment la vie de la vidéo chez Coup d'État est essentielle.
Et justement, est-ce que tu aurais une vidéo qui t'a inspiré qui a pu être viral et qui t'a marqué vraiment l'esprit depuis que tu regardes des vidéos?
Il y en a plein.
Ou une web série alors à ce moment-là?
Une web série, j'en sais trop rien, mais moi il y a beaucoup de choses qui m'inspirent beaucoup. Tu peux regarder des TED. Bon, ça fait un moment que j'en regarde plus trop parce que je trouve que c'est toujours un peu le même format, un peu siliconé, un peu facile, mais les enseignements sont pas moins bons pour autant, tu vois. Genre, c'est toujours hyper intéressant. Le Start with Why de Simon Sinek, c'est une vidéo incroyable. Mais après, tu vois, genre, regarder des YouTubers constamment, c'est aussi hyper intéressant, tu vois. Moi, en ce moment, je suis un grand fan de rap français. Du coup, je suis une chaîne qui s'appelle Le Règlement et où, en fait, il fait des analyses d'albums de rap français, tu vois. Il fait une analyse très poussée, très rythmée, hyper agréable à regarder. C'est très drôle et tout ça, tu vois. Et en fait, c'est finalement genre faire de la bonne vidéo. Je pense que ça passe aussi par faire la veille de tout ce qui peut se faire. Et il y a tellement de contenu qui est bon et qui donne envie de regarder que c'est même pas une difficulté pour moi. Tu vois, c'est même pas genre ah vas-y, je vais aller me faire ma veille et regarder ce qui se fait en termes de vidéos. C'est juste du divertissement. Et puis en fait, tu chopes parfois un petit truc que t'aimes bien et que tu vas recopier pour une vidéo à toi. Tu vas une petite façon de faire une blague, une façon de rythmer ton truc, la virgule, le machin. Donc en fait, tu travailles constamment à rechercher ces vidéos-là qui sont inspirantes et auxquelles tu peux te raccrocher et qui peuvent devenir des références pour toi. Un truc que j'aime beaucoup, c'est Dollar Shave Club. C'est ce qu'avait fait Dollar Shave Club avec ses campagnes vidéo, tu vois. Ils ont des vidéos complètement décalées, complètement what the fuck, où ils expliquent juste clairement et simplement, écoutez, nous on fait des rasoirs, ces rasoirs-là, il n'y a rien en trop dessus, pourquoi on vous fait des rasoirs avec des lames qui ont été conçues par la NASA, où il y a 18 lames, un gel, machin, alors qu'en fait on pourrait juste vous livrer notre rasoir à nous qui est trop trop bien, et ça vous coûte 10 balles par mois, et vous vous abonnez, et vous avez un rasoir qui tombe chez vous. Et ce genre de vidéos-là qui sont décalées et qui ont un impact très fort, je trouve ça fascinant, parce que il faut oser, tu vois, il faut oser aller faire une vidéo comme celle-là. Prendre la place du David contre Goliath, tu vois, et j'adore les gens qui font ça, c'est super.
D'accord. Alors justement, avant de terminer sur quelques petites questions personnelles, pour les entrepreneurs qui écoutent, quels seraient les trois conseils à suivre s'ils estiment qu'ils n'ont pas assez de visibilité, que ce soit sur la LinkedIn ou Instagram, Facebook? Juste trois.
Déjà, faites des vidéos de super qualité. Genre, il y a pas de secret, tu vois. Genre, si tu veux avoir des vidéos qui fonctionnent et que les gens vont regarder, que les gens vont partager, il faut faire des vidéos de bonne qualité. Ça passe principalement par avoir un bon son, tu vois. Si c'est une vidéo avec du son que tu vas mettre sur YouTube, il faut avoir un bon son. Tu peux pas filmer juste avec ton iPhone, achète un micro cravate, ça va te coûter 50€ et au moins tu auras un son correct ou au moins des écouteurs. Enfin, je sais pas, mais il faut trouver une solution pour pas avoir des vidéos qui enfin, tu vois, genre si t'as des vidéos comme ça, forcément tu perds l'attention des gens directement, quoi. Donc faire des vidéos de bonne qualité. Franchement, il ne faut pas grand-chose. Un iPhone, un micro, et tu as quelque chose qui peut être de très très bonne qualité. Il ne faut pas trop trembler, il faut connaître 2-3 règles de cinéma. Mais c'est à la portée de tout le monde. Tu vois, genre, je crois vraiment que une fois que tu as compris qu'il faut mettre la personne dans le tiers de l'image et pas complètement au centre, et qu'il faut une bonne lumière pour avoir une belle image, bah, c'est bon. Tu vois, tu prends ton iPhone, tu filmes, tu fais une vidéo de bonne qualité. Donc déjà, il y a déjà beaucoup de vidéos qui gagneraient à être meilleures. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mettre des sous-titres, c'est vraiment important parce que ouais, 90% des vidéos sur Facebook et Instagram sont regardées sans son, quoi. À moins que tu veuilles perdre ce public ou que tu aies un truc qui visuellement te donne vraiment envie de cliquer pour écouter avec le son, tu n'as quasiment aucune chance d'être regardé, tu vois. Et quand je vois des vidéos, même des fois, je vois des vidéos de super bonne qualité où il n'y a pas de sous-titres, quoi. Et du coup, je suis là genre, ah, c'est galère, donc je passe parce que j'ai pas envie d'écouter avec le son ou je suis pas en situation pour. Et puis en fait, je me fais violence et je me dis, bon, vas-y, ça avait l'air quand même bien, j'écoute avec le son, effectivement, c'est bien, tu vois. Mais je pense que là, il y a plein de cas où moi ou d'autres gens juste auraient passé la vidéo et next, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et ensuite, le dernier, c'est raconter des histoires, quoi. Raconter des histoires, c'est extrêmement important. C'est comme ça que le cerveau imprime la connaissance. C'est ce que tu peux transmettre. Et c'est, franchement, regarde ce que fait Brut, regarde ce que fait Combini encore une fois, regarde ce qu'ils font tous, il y a toujours une histoire, il y a toujours un contexte, il y a toujours un élément, peut-être peut-être pas un élément perturbateur, mais il y a toujours quand même un truc où tu retiens ce qui s'est passé dans la vidéo. Et je pense que si c'est juste faire une vidéo pour faire une vidéo où tu es là, genre, ouais, maintenant on est en train de parler de machin, bah, t'es forcément perdu, quoi.
Ok. Alors maintenant, parle-nous un peu de coup d'État pour les Réunionnais qui ne connaissent pas encore ou pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur le concept en lui-même et peut-être des choses qu'on pourrait suivre depuis la Réunion finalement?
Mais en fait, vous pouvez tout suivre depuis la Réunion. C'est ça qui est fou. Enfin, quasiment tout, quoi. C'est parce qu'en fait, en gros, coup d'État, notre objectif, c'est de créer le Netflix de l'entrepreneuriat. Donc, ce serait une plateforme où on rassemble des vidéos de conférences, des vidéos qui expliquent beaucoup de choses sur comment entreprendre et des témoignages d'entrepreneurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a une grosse série qui s'appelle Coup d'État Entreprendre. On a tourné déjà la saison 1 qui est en ligne. Et elle a été tournée avec Oussama Hamar, du coup, qui est un des trois cofondateurs de The Family, et qui parle d'état d'esprit. Genre, quel est le bon état d'esprit dans lequel se mettre pour entreprendre? Ça, c'est la première saison qu'on a tournée. La deuxième saison qu'on est en train de tourner en ce moment, c'est coup d'état entreprendre product, sur comment créer un produit concrètement. C'est moi qui l'ai fait. Sur comment tu crées un produit, c'est quoi concrètement faire ton premier produit, c'est quoi parler à ses utilisateurs, c'est quoi quel canal d'acquisition trouver pour faire grossir ton truc, enfin vraiment aller dans le très très concret et le cœur en fait de ce que c'est que créer ta boîte, quoi, finalement. Ça, c'est notre deuxième saison, puis on va faire une troisième sur le recrutement, une quatrième sur la finance, et à côté de ça, on fait deux autres séries qui sont soit des conférences d'entrepreneurs, soit des interviews d'entrepreneurs, où on va dans le très perso et où on cherche les leçons un peu perso, les états d'esprit des gens, etc., tu vois. Et tout ça, c'est du contenu qu'on produit, qui est disponible gratuitement et qui est disponible sur coupdeta.co gratuitement. Ça, c'est vraiment notre gros objectif avec le truc qu'on organise des événements à Paris qui sont payants. On va proposer d'autres formations qui vont être complémentaires à Coup d'État qui est gratuit et qui, elles, vont être payantes. Donc ça, on va tourner des trucs qui vont être encore plus poussés, encore plus profonds, avec des vrais exemples selon le type de boîte que tu veux créer, etc. Et ces formations-là vont être payantes. Et puis on va faire d'énormes événements où pendant 5 jours tu te fais former sur comment monter ta boîte, tu te fais challenger, tu rencontres plein de gens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place. Là, pour l'instant, on est concentré sur produire du contenu qui a beaucoup de valeur pour les gens, les mettre en ligne sur la plateforme et que les gens passent beaucoup de temps sur Coup d'État comme s'ils passaient du temps sur Netflix, quoi. Ça, c'est vraiment notre objectif.
Ok. Alors maintenant, on passe aux questions personnelles. Il y en a juste 3 et après c'est terminé. Tu disais que voilà, par rapport au sport et tout, toi c'est plus le rap français, tu es fan, tu aimes bien écouter. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler histoire qu'on te connaisse un peu plus?
Le rap français, c'est vraiment un truc qui me fascine parce que ça doit faire 6-7 ans que j'en écoute, quoi, donc c'est quand même assez récent, mais ça fait une bonne partie de ma vie. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'à la base je trouvais ça nul, genre je trouvais ça pas riche du tout. J'étais aussi beaucoup influencé, je pense, par mon environnement et tout ça. Et puis en fait, un jour, il suffit d'un artiste que tu trouves ouf et tu te dis ok, ça c'est dingue, et puis tu retrouves les codes de cet artiste-là dans d'autres artistes, et puis finalement tu comprends ce que t'aimes bien et tu creuses et tu finis par trouver des trucs vraiment dont t'es fan, quoi. Et moi, s'il y a bien un truc que j'aime faire pour passer le temps, c'est apprendre des chansons de rap par cœur et les recracher, quoi, et juste chanter et tout, parce que c'est des mecs, enfin c'est principalement des mecs déjà mais c'est des génies, quoi. Et j'ai toujours été un peu fasciné par les génies de manière générale, tu vois, les gens qui se dédient à une tâche, tu vois, pas comme moi je suis un généraliste, j'ai touché à tout. Les mecs comme ça qui arrivent à se dédier à faire que écrire pendant 10 piges et qui deviennent complètement stellaires dans leur façon d'écrire du rap, quoi, ça me fascine. Et en fait, je crois qu'il y a ce profil de gens passionnés qui aiment ce qu'ils font et qui sont en constante progression, alors que tu as l'impression qu'ils ne peuvent plus progresser tellement ils sont bons. Je trouve ça incroyable. C'est des gens qui repoussent les limites, c'est des compétiteurs de malades, c'est des entrepreneurs de ouf. Il y a tout un milieu qui s'est créé, c'est un milieu qui est hyper sain, dans lequel il y a des clins d'œil tout le temps les uns aux autres, personne ne se tape dessus, ou en tout cas presque personne, quoi. Moi, c'est un truc que je trouve génial, tu vois. C'est un truc que je trouve génial parce que, et surtout, tu vois le mouvement arriver en lame de fond, tu vois. Parce que, genre, moi, j'ai pas la tête pour écouter du rap de base, tu vois. Et ça va, tu rentres assez vite dans le cliché. Et aujourd'hui, tu vas à des concerts de rap et il y a vraiment tout un panel de gens qui sont extrêmement différents les uns des autres, qui se retrouvent et qui se connectent grâce à cette musique qui parle à tout le monde, quoi. Parce que c'est une musique qui est actuelle. C'est une musique qui frappe les gens et qui est bien adaptée à son timing et qui a su prendre un peu le tournant et qui commence à prendre de la place sur toutes les autres, quoi. Et c'est ouf. Moi, je trouve ça incroyable, ce mouvement-là.
Un nom de rappeur que tu nous conseilles à écouter?
Il y en a plein. Là, en ce moment, qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Bon, je vais prendre ma playlist, je vais te dire. Mais bon, moi, mes gros trucs. Là, récemment, c'est SCH que j'ai écouté beaucoup, beaucoup. Okay. Il y a un dernier album qui était top. Mais après, tout ce qui est Damso, tout ce qui est Nekfeu, Booba, même Orelsan, Niska, Sadek, This is La Peste. Enfin, tu vois, finalement, j'aime bien écouter un peu de tout. Et c'est un horizon qui est très très large, et c'est ça qui est ouf avec le rap, c'est que on parle du rap comme si c'était un genre musical très précis, et en fait il y a tout un panel gigantesque de styles musicaux au sein de ce genre-là, quoi. Et c'est important d'en faire le tour.
Alors après, quel passe-temps autre que le rap tu as pour te détendre?
Bah, je regarde Netflix. c'est ce que je t'avais dit l'autre jour.
Ici aussi, on capte Netflix. Avant, on captait pas, maintenant.
Mais donc, ouais, je regarde Netflix, je mate des séries, je mate des films, je lis des bouquins, je fais énormément de choses, quoi. Je fais énormément de choses, je passe du temps avec ma copine, enfin, énormément de choses. Je vais au ciné, je fais des trucs un peu classiques, quoi, mais finalement, depuis que j'ai repris Coup d'État, je me suis remis à bosser sérieusement. Donc, ça ne me laisse pas tant de temps que ça pour avoir des gros loisirs à côté. Après, ça ne m'empêche pas de prendre bientôt des vacances pour Noël, tu vois, des trucs comme ça, où là, je vais vraiment me reposer, essayer de faire un maximum de trucs pour kiffer et sortir un peu de cette routine-là. Parce que tu mets vite en place une routine, en fait, quand tu montes une boîte, c'est hyper important, tu vois. Donc, sortir de cette routine, c'est bien aussi. Voilà, okay.
Ça fait du bien, il faut. Et qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? Est-ce que tu penses continuer sur cette voie? Voilà.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Genre, de toute façon, ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là et que j'essaie de monter des trucs. Plus je me rapproche de quelque chose de solide et qui aligne à mes valeurs, plus je m'éclate. Donc, je crois que ça ne peut qu'aller mieux en avançant. Après, évidemment, c'est pas évident, tu vois. C'est pas évident parce que ton job en tant que CEO et enfin même quand tu montes des boîtes de manière générale, quoi, c'est de régler des problèmes. C'est que tu fais face à des gigantesques emmerdes et que tu dois passer outre. Et donc, ça n'est qu'un ascenseur émotionnel constant parce que t'es là genre, ah, donc là, il est probable qu'on soit mort dans 2 jours. Et puis, en fait, tu passes ce truc-là, t'as 3 mois devant toi et t'es là genre, ouais, trop bien, on a de nouveau 3 mois devant moi, tout va bien. Et puis au bout de 3 mois, il y a de nouveau une mort imminente. Et donc en fait, tu ne fais que régler des problèmes. Donc c'est très compliqué. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? J'en sais rien, tu vois. Mais là, pour l'instant, c'est bien parti pour parce que c'est ce qui m'éclate le plus, quoi.
Ok, super. Bah écoute, ça y est, là on a fini. Le dernier petit moment, c'est à qui tu souhaiterais remercier pour toute cette aventure entrepreneuriale que tu as menée et que tu vas mener. C'est important, voilà. Je te permets d'adresser des remerciements.
On va faire ça comme les Oscars, tu vois. Genre, alors je voudrais remercier mon père, ma mère, non, mais pour de vrai, genre, je pense qu'il y a, un truc, tu vois, j'ai un parcours dont je suis très content. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait et je suis bien content d'avoir passé toutes ces étapes-là. Et il y a beaucoup de frustrations personnelles que j'ai pu éliminer sur le chemin et puis. Et j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens assez incroyables. Je crois que s'il y avait vraiment trois personnes à remercier du fond du cœur, quoi, c'est mes deux parents qui m'ont élevé, bon, avec ma sœur, tu as toute la famille très proche finalement, quoi, qui eux m'ont élevé dans un moule où on m'a toujours dit, fais ce que tu veux, quoi. On m'a toujours dit, fais ce que tu veux. Tant que tu es dans le respect des autres et que tu casses pas la liberté des autres, tu es libre de faire ce que tu veux. Et tant que c'est cohérent et rationnel et que tu n'es pas juste en mode je veux faire n'importe quoi, tu vois, on va te laisser faire ce que tu veux. Et ce truc qui disait de fais ce que tu veux, il me laissait vraiment le faire. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'arriver là. Si j'ai pu arrêter mes études, alors que bon, franchement, dans la famille, c'était compliqué comme décision à prendre, tu vois. C'est parce que mes parents m'ont soutenu à un moment où personne d'autre me soutenait. C'est ces moments-là où tes parents, tu sais, c'est comme quand t'es gamin et que tu fais un dessin tout moche, quoi. Tu fais un dessin, il est tout laid, et ben, tes parents, ils disent, ah, c'est super, ils l'accrochent sur le frigo, et puis le dessin que tu fais d'après, il est un peu moins laid. Et en fait, l'encouragement fait que t'as envie de continuer, et donc tu progresses, quoi. Si mes parents m'avaient dit dès le départ, quand j'ai commencé à faire mon premier site web, ah ouais, mais non, c'est pété, j'aurais probablement arrêté, et je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois. Donc ça, c'est un remerciement à faire. Et après, il y a Oussama de The Family, quoi. Oussama, c'est un gars, genre, quand j'étais à une période un peu sombre de ma vie, au moment où je devais arrêter mes études, justement, et tout ça, parce que j'en pouvais plus, quoi. C'est un gars que j'ai trouvé et qui m'a juste, on s'est même pas parlé tant que ça, tu vois. C'est juste, il m'a mis sur les bons rails pour aller faire Menu Next Door. Il m'a emmené vers là, il m'a guidé tout le long du truc, et puis il m'a jamais lâché depuis, quoi. Et The Family de manière générale, mais c'est surtout lui mon point de contact. Donc non, il y a un fond de générosité que je trouve assez incroyable. Certes, ça sert son intérêt, évidemment, tu vois, mais il y a un alignement d'intérêt qui est clair. C'est que lui, il part du principe que si moi je réussis, ça va l'aider à réussir aussi, et que donc il y a un alignement qui est clair et net. Et il y a pas, c'est pas juste de la philanthropie, tu vois. Et moi, je trouve ça génial parce que du coup, je suis redevable à personne. Genre, il me donne ma chance, mais au final, c'est moi qui travaille, enfin, tu vois. Et ça, je pense que c'est la bonne façon d'aider les gens. C'est pas juste de leur donner de l'aide pour leur donner de l'aide et te sentir bien et être content de toi. C'est vraiment aller ensemble dans la bonne direction. Et ça, je crois qu'il y a c'est un travail qu'ils font très, très bien. Donc, ouais, mes parents, ma famille proche, ma sœur et Oussama.
Ok, bah merci pour ce partage de cette valeur entrepreneuriale aussi, qui est l'entraide, du coup.
Ouais, complètement. Je crois que s'il y a bien un skill qu'il faut développer pour être entrepreneur, c'est ça, c'est savoir demander de l'aide aux gens. Parce qu'en fait, on sous-estime à quel point c'est impossible de se faire soi-même. Parce qu'en fait, quoi, enfin, genre, si, t'as peut-être une chance, hein, t'as peut-être une chance, je dis pas que c'est impossible, mais moi, j'étais très individualiste et très solitaire, parce que de toute façon, je fais tout mieux que les autres, tu vois. Et en fait, à partir du jour où tu te rends compte que demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste c'est juste une preuve de vulnérabilité et c'est juste une main tendue pour que quelqu'un vienne te filer un coup de main, bah, tu t'avances beaucoup plus vite, tu crées de la chance. Enfin, il y a énormément de choses qui découlent du fait de savoir demander de l'aide aux gens, quoi.
Ok. Bah, écoute, je te remercie. Merci d'avoir donné cette interview. Et puis, on se dit à bientôt.
Ça roule.
Bye.